la CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé.
Imaginez la mer au petit matin. L'horizon est calme, presque immobile, et pourtant, l'eau ne cesse jamais vraiment de bouger. Les vagues avancent doucement vers le rivage, puis repartent, guidées par le rythme régulier des marées. Le corps féminin possède lui aussi son propre rythme. Un cycle puissant qui s'installe à l'adolescence et accompagne la vie des femmes pendant de nombreuses années. Mois après mois, le corps change, se transforme, puis recommence. Comme une marée intérieure. Il y a d'ailleurs une curieuse proximité entre deux mots, la mer et la mer. Peut-être parce qu'elles évoquent toutes deux l'origine, la vie, dans sa beauté et son mystère. La plupart du temps, ces marées du corps restent calmes, mais parfois le mouvement se transforme. Les vagues deviennent plus fortes, plus imprévisibles, et ce qui semblait paisible révèle une réalité plus complexe, souvent douloureuse et invalidante. C'est dans ces mouvements du corps féminin que nous allons plonger aujourd'hui. Pour certaines femmes, ce qui devrait être une simple marée devient une tempête intérieure, l'endométriose.
J'ai la chance de vivre dans les années 2020 et de me dire que quand je vais voir un médecin et que j'ai mal, on commence à me dire que c'est pas que dans ma tête. Pour beaucoup de femmes, ça n'a pas été le cas. Et c'est souvent le cas de ce qui est invisible, et on va parler aujourd'hui de l'endométriose. Alors oui, on est en avril, on sait, on n'est pas en mars, mais on s'est dit qu'on pouvait parler des femmes à un autre moment qu'au mois de mars. Et pour parler des femmes et de l'endométriose, je reçois aujourd'hui des membres de la CPTS des Bauges, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, et je suis avec Edmond Guillot, coordinateur de la CPTS. Bonjour Edmond.
Bonjour.
Catherine Gou, infirmière libérale et vice-trésorière de la CPTS. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et Maude Duchesne, infirmière libérale et présidente de la CPTS. Bonjour Maude.
Bonjour.
Alors, après cette entrée en matière, vrai, on va parler de ce qui nous fait mal et de ce qu'on n'a pas eu le droit de dire pendant des années. On va parler d'endométriose, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Alors, l'endométriose, on l'aura compris, c'est une maladie qui est complexe. C'est ce que tu viens de dire, on a du mal à l'identifier. On en parle depuis peu, mais pendant longtemps, ça a été tu. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui est déjà exclusivement féminine, elle est mal connue. Et puis, elle se caractérise par quelque chose d'assez complexe, qui est la présence hors de l'utérus de cellules qui, normalement, tapissent l'endomètre, qui est la muqueuse utérine. Donc, les lésions que provoque l'endométriose, donc elles sont composées de cellules aux caractéristiques qui sont identiques à celles de l'endomètre et qui peuvent aussi toucher différents organes. On se dit, l'endométriose, c'est uniquement féminin, oui, et c'est uniquement au niveau de l'appareil génital. Ça, c'est faux et on va le comprendre par la suite. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui est assez répandue, qui touche plus de 10% des femmes qui sont en âge d'avoir des enfants dans le monde, et sa découverte, est-ce que tu sais à peu près de quand elle date ?
Allez, vu qu'on en parle là récemment, je dirais que ça a 20 ans, 2000.
Eh bien, figure-toi qu'on est au courant de cette maladie depuis 1860.
No way.
Voilà. Et c'est vrai que malgré tous les efforts donc des associations comme Endo France qu'on peut citer, qui fait un travail extraordinaire autour de l'endométriose, et de la médiatisation qui est plutôt récente, elle reste encore vraiment méconnue, cette maladie. Donc parce qu'elle a été souvent et très longtemps sous-estimée, parce qu'elle était associée aux douleurs de règles. On se disait, t'as tes règles, c'est normal, tu souffres, tais-toi, c'est comme ça, et il n'y a rien de plus. Sauf qu'en fait, en réalité, elle est présente chez plus de 40% des femmes qui souffrent de douleurs qu'on appelle pelviennes, donc on va dire au niveau abdominal pour faire plus simple, pendant la période des règles.
Et à part faire mal au ventre, qui est déjà pas cool, ouais, ça a d'autres impacts, cette endométriose ?
Oui, alors on estime que la moitié des infertilités seraient liées en fait à la maladie de l'endométriose. Il y a plusieurs études qui montrent aussi que les fausses couches ou des complications pendant la grossesse sont dues à l'endométriose. Et quelque chose que moi j'ai découvert en préparant l'émission, pourtant l'endométriose est un sujet que je connais assez bien et que vraiment là j'ai été un peu stupéfaite de cette info, c'est qu'on observe aussi des lésions endométriosiques, on appelle ça comme comme ça, sur les membranes fœtales, donc c'est la poche qui entoure le fœtus, et ces cellules qu'on va trouver sur cette poche provoquent des accouchements prématurés et même des problèmes au cours de la grossesse.
Donc, comme on le connaît depuis 1860, on se dit qu'il y a un diagnostic béton.
C'est ça. Eh bien non, figure-toi qu'en moyenne, alors, et le chiffre est de mieux en mieux, les femmes sont de plus en plus diagnostiquées, plus vite, mais quand même, en moyenne, c'est à peu près 7 ans pour avoir un diagnostic d'endométriose.
Et qu'est-ce qui amène à la découverte de la maladie ?
Souvent, c'est un problème lié à l'infertilité, hein, dont 30 à 40% des femmes. Et sinon, ce sera des douleurs qui vont être anormalement intenses dans le bas-ventre. Alors, quand on pense endométriose, on pense systématiquement à douleurs, mais c'est quand même aussi important de dire qu'il y a quand même une part assez importante de femmes qui ont de l'endométriose, mais qui ne sont pas sujettes à des douleurs très handicapantes ou très invalidantes. Voilà. Mais qui peuvent être, par contre, atteintes d'infertilité, alors pas forcément majeure, mais qui a quand même un déficit au niveau de la fécondité.
Et là, on arrive à ma partie préférée, Maud. Connais-toi toi-même.
C'est ça.
Donc, vas-y, explique-nous ce qui se passe à l'intérieur de notre corps.
Je t'explique ton corps.
Merci.
Alors, l'appareil génital, il est formé donc de différents organes. Dans la porte d'entrée, tu as le vagin, ensuite tu as l'utérus qui est la poche, et de chaque côté, tu as deux trompes qui mènent chacune à un ovaire. À chaque cycle menstruel, donc à chaque fois que tu as tes règles, l'endomètre, donc qui est le muscle, qui est ce qui tapisse l'utérus, va réagir à des hormones qu'on appelle des hormones ovariennes. C'est les ovaires qui discutent avec ton cerveau. Et dans ces hormones-là, tu as les œstrogènes qui vont permettre de développer l'endomètre, de préparer le nid, on va dire, et la progestérone qui va servir plutôt à implanter, à permettre à l'œuf de s'agripper en cas de fécondation. S'il n'y a pas de grossesse, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, les règles.
C'est ça. S'il n'y a pas de grossesse, en fait, cette paroi, ce nid qu'a construit l'endomètre, il n'accueille rien, donc il ne sert plus trop à rien. Il devient inutile, donc il va se décomposer, il va saigner. Et comme tu l'as dit, ce sont les règles. Et dès ce moment-là, en fait, le sang menstruel, le sang des règles, est composé à la fois de sang, mais de ces petites cellules aussi, donc de l'endomètre, qui vont s'écouler de façon naturellement. Et on constate que pour 90% des femmes, il y a parfois ce qu'on appelle un reflux, c'est-à-dire qu'une partie du sang et de ses cellules endométriales, elles vont remonter et elles vont passer alors par les trompes et les ovaires pour retomber dans le bas-ventre et du coup être alors éliminées normalement, mais pas toujours. Et c'est un petit peu le problème de l'endométriose, parce que dans le cas de cette endométriose, l'élimination, elle ne va pas s'effectuer correctement et ça va engendrer le déplacement de ces cellules en dehors de l'utérus, qui devrait normalement s'écouler par les voies naturelles.
Ok, donc quand ça, si je comprends bien, vu qu'on est dans le sujet de l'endométriose, il y a une partie de ces cellules endométriales, qui se baladent dans notre corps.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'elles vont faire ?
Alors, on observe plusieurs phénomènes. Soit elles vont former ce qu'on appelle des kystes, donc des espèces d'agglomérats comme ça, qui vont être de quelques millimètres jusqu'à des fois 10 cm de diamètre. Le sang et ses cellules endométriales, elles vont stagner et elles vont créer aussi ce qu'on appelle des adhérences elles vont relier certains organes qui ne devraient pas être reliés entre eux, c'est surtout ça. Et donc ça, donc de manière anormale, crée effectivement aussi des tissus qu'on appelle cicatriciels. Et c'est cet ensemble de formations, j'ai envie de dire, qui vont entraîner des douleurs, qui vont être ressenties au niveau de l'abdomen du fait de l'irritation des organes avoisinants au péritoine, qui est en fait l'enveloppe, si tu veux, qui entoure tous les organes de l'abdomen. Espèce de ballon comme ça où tu as tous les organes dans l'abdomen. Donc tu as toutes ces petites cellules qui viennent comme ça, un peu nichées à droite, à gauche, et qui créent un peu des liaisons entre les différents organes qui n'auraient pas lieu d'être.
Et ces cellules, alors, elles vont faire quoi ? Rester un peu dans une zone circoncise ?
Alors, principalement, quand même, l'endométriose se retrouve sur les organes, on va dire, de l'appareil sexuel. Donc, ça va être les ovaires, le vagin, etc. Et les organes avoisinants, ça peut être le rectum, la vessie, les intestins. Et chose aussi très particulière et auxquelles on ne sait pas trop souvent, elles peuvent migrer de façon très éloignée aux poumons, au niveau des bras, des cuisses. J'avais le souvenir d'une patiente, à chaque fois qu'elle avait ses règles, ça saignait dans ses poumons, quoi.
Waouh !
Voilà.
C'est une sorte de mutation incroyable.
C'est ça.
Tu disais tout à l'heure que des femmes qui avaient des grandes douleurs n'avaient pas forcément beaucoup d'endométriose et celles qui n'en avaient pas du tout pouvaient en avoir. Il y a une sorte de classification ou d'échelle de « je suis atteinte de l'endométriose de 1
ouais.
à 10 ».
Ouais. Il y a une classification qui existe, c'est la seule, mais elle est utilisée parce que c'est la seule, mais elle n'est pas forcément très représentative. Tu peux avoir un stade débutant de l'endométriose, mais avoir des douleurs extrêmement fortes, tout comme tu peux être extrêmement envahi par les cellules endométriale et pas forcément avoir de grosses douleurs. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour classer la maladie, mais en général, les médecins l'utilisent surtout pour se dire, bon voilà, il y a un envahissement qui est assez généralisé ou pas.
On parle de douleurs depuis tout à l'heure. Catherine, sur ces symptômes, qu'est-ce qu'ils font créer ? Où est-ce qu'on a mal, en fait ?
Ah oui, la douleur. La douleur, comme disait Maud, hein, suivant le degré d'endométriose, les symptômes sont très personnels. C'est toujours pareil, vous pouvez avoir très mal et plus d'endométriose, beaucoup d'endométriose et peu de douleur. En général, ce qui revient souvent, c'est des règles particulièrement douloureuses. C'est un des symptômes les plus fréquents et du coup, c'est ce qui interpelle en premier lieu. Donc elles sont très intenses, difficiles à soulager avec les traitements habituels. Nous avons aussi les douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire tout ce qui est douleur au niveau du bassin, à l'intérieur du bassin, qui peuvent survenir aussi en dehors des règles. Elles sont pas, ces douleurs, elles peuvent être aussi pendant les règles et en dehors des règles. Donc c'est surtout des douleurs qui impactent dans la vie de tous les jours parce qu'elles limitent dans les activités quotidiennes et elles provoquent une fatigue importante. Il y a aussi des douleurs qui peuvent apparaître pendant les rapports sexuels. Il y a aussi des troubles digestifs qui peuvent apparaître. Bon, divers et variés, hein. Ballonnement, douleur, constipation, diarrhée. Les troubles urinaires, pareil, du même type, très variés. Et aussi quelque chose qui est très mentionné, une fatigue importante. Donc cette fatigue, bien évidemment, elle est très handicapante et elle peut affecter la vie professionnelle, scolaire et sociale. Donc, comme je vous l'ai dit, donc des symptômes très variables en signes et en intensité. Donc, c'est un aspect particulier de l'endométriose et que l'intensité des symptômes ne correspond toujours pas à la gravité de la maladie. Donc ça, c'est important à retenir. Et c'est pourquoi elle est très difficile à diagnostiquer et nécessite une prise en charge médicale adaptée.
Edmond, comme à chaque fois, on se dit que ce genre de maladie, alors on parlait dans la dernière émission de châtiment divin, mais ça ne peut pas être la seule explication. Il y a des facteurs de risque qui sont attachés au développement de l'endométriose.
Alors l'endométriose est une maladie qui est complexe et sa particularité, c'est que son apparition résulte de plusieurs facteurs combinés. Comme l'a dit Catherine, chaque cas est un peu différent, mais on note en particulier et principalement des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, des facteurs immunitaires et des facteurs environnementaux, puisque c'est une nouvelle donnée qu'on commence à prendre en compte et à mesurer. Et c'est vrai que c'est la combinaison de tous ces facteurs qui est générateur d'une possible endométriose. Alors, premier facteur, le plus classique finalement et le plus connu et le plus facile à identifier, le facteur génétique. Aujourd'hui, on identifie que les facteurs génétiques jouent un rôle très important dans l'apparition de l'endométriose. C'est vrai que c'est une maladie féminine et souvent, si sa maman avait déjà des problèmes de ce type-là, c'est un facteur de risque important. Aujourd'hui, Les chercheurs pensent qu'il pourrait exister une prédisposition génétique importante liée notamment à la régulation hormonale, à l'inflammation et au fonctionnement du système immunitaire.
Tu disais, tu as mis l'accent tout à l'heure, et c'est souvent le cas dans les émissions de la CPTS, sur les facteurs environnementaux. En quoi les facteurs environnementaux pourraient avoir une influence sur l'endométriose ?
Alors, les facteurs environnementaux, et on en prend de plus en plus conscience, ont un impact important sur la santé dans tous les domaines. Et les chercheurs ont commencé à identifier qu'ils avaient aussi des impacts non négligeable sur le déclenchement de l'endométriose. Parmi les substances qui sont suspectées aujourd'hui, on retrouve certains pesticides, des dioxines, certains plastiques qui contiennent du bisphénol, dont on a beaucoup entendu parler depuis quelques années, et puis des produits industriels. Finalement, ces substances qui ont un rôle de perturbateur du système hormonal favorisent le développement de tissus endométriaux en dehors de l'utérus, comme l'expliquait Maud tout à l'heure.
Tu évoquais aussi le fait qu'il pouvait y avoir un facteur immunitaire.
Alors effectivement, le système immunitaire, qui joue normalement un rôle important dans la protection de l'organisme, en particulier en éliminant les cellules hormonales anormales, comme l'a expliqué Maud tout à l'heure, dans le cas de l'endométriose, finalement, la partie système immunitaire du corps ne joue pas son rôle complètement, puisqu'en fait, il évacue pas les cellules qui ne devraient pas rester dans le corps. Et c'est une des causes importantes de l'endométriose. C'est chez certaines personnes qui sont atteintes d'endométriose, en fait, le système immunitaire fonctionne de manière moins efficace, Ça empêche donc l'élimination des cellules endométriales qui sont situées hors de l'utérus. Et donc, comme elles ne sont pas évacuées, elles provoquent des réactions dans le corps humain et génèrent justement les symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Il existe aussi un autre dispositif qui s'appelle le stress oxydatif, qui correspond à un déséquilibre entre les molécules qu'on appelle les radicaux libres et les mécanismes de défense de l'organisme. Alors on est un petit peu sur la même approche que le système immunitaire, puisque finalement ce déséquilibre provoque des dommages au niveau des cellules et favorise des processus inflammatoires. Donc dans ce cas, le système oxydatif peut avoir un impact direct sur la survenue de l'endométriose.
Et comme c'est une maladie féminine et qu'on est quand même beaucoup soumise à des flux hormonaux, j'imagine que les facteurs hormonaux ont aussi un impact.
Alors les facteurs hormonaux jouent un rôle essentiel dans le développement de l'endométriose. C'est une maladie qui est fortement influencée par les œstrogènes et par les hormones qui stimulent la croissance du tissu endométrial. Et donc, certaines situations hormonales augmentent le risque de développer l'endométriose, comme un début précoce de règles, des cycles menstruels courts, des règles abondantes, une exposition prolongée aux œstrogènes. Finalement, ces facteurs augmentent le nombre total de cycles menstruels au cours de la vie et donc les facteurs de risque de l'endométriose.
Et dans les on-dit sur cette maladie, j'avais cru comprendre que la grossesse était une solution pour stopper l'endométriose.
Alors en fait, la grossesse peut avoir un effet temporaire sur les symptômes de l'endométriose, mais malheureusement, elle ne fait pas disparaître l'endométriose. Elle l'atténue pendant la période de grossesse, mais c'est le seul effet constaté aujourd'hui sur ce type de pathologie.
Et est-ce que notre morphologie peut avoir une conséquence sur le développement de la maladie ?
Alors en fait, certaines études indiquent que les femmes qui ont un IMC, donc un indice de masse corporelle plus faible, présentent plus de risques que les femmes avec un indice IMC plus important. Mais on n'en est qu'au résultat des études. Et aujourd'hui, ça n'est pas érigé en tant que facteur déterminant de l'endométriose.
Et en dernier lieu, il y avait la théorie qu'évoquait Maud tout à l'heure, celle du reflux menstruel.
Alors cette théorie, c'est l'une des hypothèses les plus connues pour expliquer l'endométriose. Selon cette théorie, une partie du sang, comme l'expliquait Maud tout à l'heure, du sang menstruel, remonte par les trompes de Fallope dans la cavité abdominale. Et à partir de là, en fait, elle crée ce tissu en endométriose qui, lui, est générateur de la maladie.
Donc, Maud, une fois qu'on sait tout ça, qu'on sait que c'est multifactoriel ou cofactoriel, comment est-ce qu'on peut se dire je vais le diagnostiquer ?
Déjà, il faut se dire que c'est important de le diagnostiquer parce que, comme on l'a dit tout au long de l'émission, on banalise en fait l'endométriose, on banalise surtout les douleurs. Et pour pouvoir poser un diagnostic, c'est important d'avoir plusieurs démarches. Profiter parfois des consultations qu'on peut avoir. On sait que y a les frottis sont conseillés à partir de 25 ans, donc on peut aussi profiter de ces moments-là pour discuter avec sa sage-femme, ou avec son médecin traitant, ou avec le gynécologue qui nous reçoit, parce que souvent on se dit c'est normal. L'intensité de la douleur, elle est propre à chacun, et on se dit finalement c'est moi ou voilà, et se dire non, c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles, par exemple. Donc ça peut être déjà donc pendant ces examens cliniques. Et puis pourquoi en fait c'est important de diagnostiquer de façon précoce, simplement pour mieux gérer les douleurs, également pour éviter les complications qui sont liées aux lésions. On a parlé d'infertilité, de 30 à 40% des infertilités qui sont liées à l'endométriose, donc souvent chez des sujets qui sont jeunes, et on sait que maintenant on a des enfants de plus en plus tard, et finalement on a peut-être diagnostiqué seulement à ce moment-là le problème de l'endométriose, avec non seulement de façon physiologique des chances de pouvoir procréer qui sont moins importantes à un âge plus avancé, et en plus de ça, si on rajoute une pathologie dessus, on diminue quand même ses chances de pouvoir concevoir un bébé. Évidemment, ça paraît important, bah, améliorer la qualité de vie des patientes. Et puis, surtout, si besoin, adapter le plus rapidement possible un traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs choses, en fait, plusieurs principes pour pouvoir diagnostiquer la maladie. Donc, ça va être l'examen clinique, comme on l'a dit. Et puis après, on peut vous proposer donc divers examens qui peuvent être une échographie, un IRM, etc. En fonction de l'endroit où peuvent subvenir les douleurs, ça peut être des examens urinaires ou des échographies digestives, vraiment adaptées en fonction de chaque patiente.
Je voulais dire que le diagnostic précoce aussi, surtout pour les jeunes filles, quand elles commencent à avoir leurs règles, je pense qu'il faut une éducation au moment de la puberté pour bien expliquer que, bon, ce changement corporel, déjà, qui est violent, et bien expliquer la notion de pas de douleur. De sensibiliser tout de suite, disons, précocement aux différents symptômes et de ce qu'elles vont vivre dans leur cycle menstruel.
J'irais même plus loin, Catherine, et je te rejoins à 1000%. C'est au-delà de se dire on a mal et c'est normal et voilà. C'est surtout comprendre son cycle. On voit, je pense, et tu seras d'accord avec moi, Catherine, on voit énormément de femmes, même qui ont des âges avancés, qui ne savent pas comment elles fonctionnent. Qu'est-ce que c'est les règles? Pourquoi qu'est-ce que c'est ces sécrétions qu'on peut retrouver au fond de la culotte, à quel moment du mois, etc. Et tout ça, en fait, a du sens, a une explication physiologique. Et c'est pas sale, c'est juste que c'est le corps et le fonctionnement des femmes. Et je te rejoins totalement sur l'éducation, en fait, des jeunes filles à appréhender au mieux leur corps.
Des jeunes filles et des garçons.
C'est vrai.
Je pense qu'il faut que autant les hommes que les femmes connaissent le fonctionnement de chacun de manière, bon, pas de manière pointue, mais pour comprendre la différence. On en est toujours à la même problématique qu'à l'émission du mois précédent sur les céphalées. C'est que la différence est une richesse et que concevoir un bébé, ben, il y a un homme et une femme. Et comment ça fonctionne? Et si on ne comprend pas l'autre à minima, il ne peut pas y avoir de... Alors, je ne peux pas dire de partenariat, mais de couple.
Déjà, même pouvoir se supporter.
Oui, même se supporter soi-même. Et plus les gens connaissent leur fonctionnement, chacun, plus ils peuvent être à l'écoute et pouvoir anticiper, minimiser les facteurs aussi. Et que ce n'est pas quelque chose de sale. Et voilà. Et la douleur, c'est très judéo-chrétien aussi. J'existe par la douleur aussi. Donc je pense qu'il faut désacraliser la douleur.
Et on en vient justement au fait que avoir mal n'est pas une fatalité. Alors est-ce que sur cette endométriose qui est quand même quelque chose de diffus, de difficile à diagnostiquer, une fois que le diagnostic est posé, il y a des traitements possibles?
Oui, il y a des traitements qu'on dit allopathiques de la médecine traditionnelle dans notre pays. Donc il y a le traitement de la douleur pure et dure, donc les antalgiques, qui ont un effet vraiment de diminuer la douleur. Les anti-inflammatoires aussi, qui diminuent l'inflammation, donc qui diminuent la douleur. Donc, c'est toujours pareil, ces traitements ils peuvent être efficaces sur certaines personnes, pas sur d'autres, mais ils ne traitent pas la cause de la maladie. Ils traitent les symptômes, ce qui est déjà très important en soi. Il y a les traitements hormonaux, qui sont très souvent utilisés pour limiter l'activité des lésions d'endométriose. Donc, ils agissent en modifiant ou en bloquant le cycle menstruel. On a bien compris que c'était une maladie aussi et douleur qui fluctuait en fonction du cycle hormonal. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est souvent la pilule contraceptive, les progestatifs, voire le stérilet, et certains traitements qui diminuent la production d'hormones ovariennes. Donc ça, c'est pareil, c'est le médecin qui les prescrit en fonction du type des douleurs, du type de l'endométriose, de l'envahissement. Exceptionnellement et rarement, et on évite au maximum la chirurgie. Quand il y a vraiment des atteintes très importantes au niveau des organes avoisinants et de l'abdomen.
Et on disait, il y a l'une des conséquences de cette maladie, ça va être un trouble lié à la fertilité.
Voilà, donc des difficultés à concevoir un enfant. Donc ça, c'est pareil, hein, il y a plein de traitements qui peuvent aider à la procréation médicale assistée. Donc des traitements hormonaux, une fécondation in vitro. Donc ça, c'est pareil. Hein, il y a tous des bilans très pointus pour savoir quelle est la cause de l'infertilité et les moyens qu'on peut proposer au couple ou à la femme pour concevoir un enfant.
Catherine a évoqué les traitements allopathiques. Edmond, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont envisageables avec cette maladie ?
Alors, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Collège National des gynécologues et obstétriciens français, en fait, la prise en charge de l'endométriose consiste à préserver la qualité de vie et la fertilité des femmes si l'on souhaite avoir des enfants. Et il existe effectivement, en dehors des traitements allopathiques, des soins de support qui sont recommandés pour ce type de pathologie. Premier support bien connu, l'ostéopathie. On l'a dit tout à l'heure, le corps va compenser une zone très douloureuse qui a été un peu colonisée par les cellules. Et pour ça, il y a un rééquilibrage nécessaire par un ostéopathe. Et donc ça, c'est un soin qui est très efficace. Autre support recommandé qui n'est pas forcément de nature médicale, le yoga et plus généralement le sport adapté, qui permet un relâchement musculaire et le développement d'endorphines et une meilleure gestion du stress. Donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est important aussi d'avoir un corps apaisé finalement pour supporter en fait les douleurs de l'endométriose. L'acupuncture, qui peut agir sur les douleurs, sur la fatigue chronique et sur l'anxiété. La relaxation, méditation, sophrologie, hypnose ou auto-hypnose. Les cures thermales, on a quelques spécialités de cures thermales aujourd'hui sur l'endométriose, depuis peu de temps finalement. L'homéopathie, qui reste effectivement un soin qui peut apaiser les douleurs de l'endométriose. Les régimes alimentaires ou les suppléments vitaminiques. Et quand la douleur est devenue chronique, très régulière, il est important d'aller rencontrer un algologue, un médecin de la douleur, une sage-femme, une infirmière, qui peuvent être d'un secours précieux pour arriver à gérer en fait les douleurs de l'endométriose. Chaque cas est un cas unique. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une pathologie qui est quand même très complexe, avec finalement de multiples facteurs qui interviennent, et la prise en charge, elle ne peut être qu'individuelle, même en ce qui concerne les médecines douces. Et l'automédication, même avec des plantes, n'est pas conseillée en cas d'endométriose. Il faut vraiment en parler avec un professionnel de santé.
Alors Maud, on l'a vu, c'est une maladie qui est exclusivement féminine. Comment on peut finir justement cette émission sur le fait que des femmes soient touchées par cette maladie?
Oui, c'est vrai que l'endométriose, donc comme tu le dis, elle nous rappelle finalement que le corps féminin est très complexe, il est plein de mystères et puis il est encore imparfaitement compris. Voilà, on donne la vie et on a aussi quelque chose d'un peu mystique et d'un peu mystérieux dans le fonctionnement de nos corps qui sont soumis à ces hormones, à ces fluctuations, à ces variations. Et comme on le disait en introduction, un petit peu comme cette marée qui va et qui vient avec symboliquement, tu vois, la lune qui va agir sur nous, et ben nous, ça va être un petit peu les hormones. Et ce qui est quand même positif, c'est que les connaissances progressent. On est de plus en plus quand même sur l'observation et sur le traitement, la reconnaissance aussi, la prise en charge de l'invalidité que ça peut causer, et puis d'essayer de comprendre cette maladie et de la traiter au mieux. Mais ça passe surtout par l'information. C'est aussi la démarche de la CPTS aujourd'hui, de pouvoir avant tout sans proposer des solutions toutes faites, mais déjà d'informer, de comprendre, de parler, de vulgariser un petit peu cette maladie qui touche beaucoup de femmes, parce que finalement, mieux informer, c'est aussi reconnaître des symptômes plus tôt. Moi, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui a été diagnostiqué parce que finalement, c'est son mari qui a entendu une émission de radio qui parlait de ça et qui lui dit « Ah, finalement, ça ressemble un petit peu à ce que tu as tout le temps. » C'est comme ça que la personne a pu être diagnostiquée. Donc, chaque diagnostic est quand même une victoire sur cette maladie. Et comme tu le disais, on n'est pas au mois de mars, mais pouvoir parler quand même de la santé des femmes aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît quand même assez essentiel et important. pour mieux quand même comprendre bah, cette réalité qui touche de nombreuses vies et qui tous les jours, eh ben, ces mamans et ces femmes qui travaillent quotidiennement, les comprendre dans leurs difficultés aussi de vie plus intime. Voilà, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure de la mer, un petit peu comme ces sirènes des légendes marines bah, qui sont parfois mal comprises, mais qui finalement portent la vie en elles et puis qui portent aussi surtout beaucoup de mystères.
Et on espère avoir soulevé une partie du mystère sur cette maladie avec cette émission. Et merci à vous, Edmond, Catherine et Maude, d'y avoir contribué.
Merci.
Merci.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bauges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique « Émission des partenaires ».